Bonjour à tous, bienvenue sur le 66e épisode de Comics Weekly.
Le Comic City de l'enfer.
Ah ouais, non mais là ta voix c'est impressionnant.
Effectivement, le Weekly de l'enfer.
L'enfer est sur Terre.
Oui, 66.
Et dans le podcast avec. Donc bah, cette semaine, c'est comme d'habitude une semaine spéciale d'essai, une fois de plus, puisque c'est le grand relaunch, les New 52, comme on dit là-bas.
Ici aussi.
Et là-bas, dans le coin à gauche, oui aussi.
La particularité cette semaine, c'est qu'on aura un vrai décès.
Oui. Oui. S'il y a des chances. Décédé en direct, probablement.
Il se peut que je ne termine pas le podcast.
Donc, on aura un maximum d'audience. Non, mais c'est bien, c'est bien.
Bah, tout d'abord, je tiens tout de suite à m'excuser si jamais je vais essayer de faire un maximum au montage, mais il se peut que vous entendiez des moments où je me mouche, où je tousse.
Ou il râle.
Un dernier râle, un dernier souffle.
Voilà, c'est ça.
Les choses très glamour. Quoi.
Très très grosse crève, donc voilà. Et pour vous, auditeurs.
Mais oui, non, mais c'est voilà, c'est vraiment être professionnel jusqu'au bout. Il est au bout du sujet, quoi. Il est vraiment à fond dedans.
Mais il y a l'expression jusqu'au bout des ongles, et là pour moi actuellement, c'est jusqu'au bout de la morve. Hein.
Voilà. D'accord, je croyais que t'allais jusqu'au bout des comics ou je ne sais quoi.
Mais... Non, jusqu'au bout de la mort.
Non, on continue dans le côté glamour, vraiment.
Jamais sans ta mort.
C'est-à-dire que même mes mouchoirs sont professionnels, tu vois. Voilà, bref, on va arrêter de dire des conneries.
Bref, ouais.
Surtout moi.
Je crois que je suis pas la marque de fabrique de comics.
Et on va attaquer tout de suite les reviews de la semaine, les reviews d'essai bien évidemment. On parlera rapidement de Marvel, bien sûr, en express aussi. Mais c'est à se demander si Marvel existe encore.
Ouais. Ça a un peu disparu du radar.
Ils ont DCD.
On verra le mois prochain s'il relève un petit peu la tête. En tout cas, ce mois-ci, c'est clairement le mois DC. Et on commence avec la très très grosse sortie de la semaine. Hein. Mm-hmm. Donc, c'est Benny qui va nous en parler.
Oui, le Batman numéro 1 par Scott Snyder et Greg Capullo. Alors, Scott Snyder qui était avant sur Detective Comics et qui du coup hérite du titre Batman pour ce relaunch, et accompagné de Greg Capullo. Alors Greg Capullo, c'était quand même la grosse interrogation, puisque quand il a été annoncé, on se demandait ce que ça allait donner, visuellement parlant, et c'est plutôt vachement bien. Enfin, je trouve que le style...
Oui.
On avait pu voir pas mal de planches, hein, déjà, le mec avait vraiment teasé pas mal de ses crayonnés sur le net.
C'est pas une découverte pour moi. Hein.
Mais malgré tout, tu vois, j'ai quand même été surpris, surtout au niveau de l'histoire. Enfin, je veux dire, tout n'était pas visible, quoi. En tout cas, ce qu'on a pu apercevoir, ça ne raconte pas trop l'histoire. Ce qui n'était pas plus mal. Ça commence sur une espèce de d'émeute à Arkham. Donc ça, c'est assez classique, en fait. Hein. Voilà, avec un Batman qui casse du méchant. Sauf que là, il se fait aider par le Joker. Alors, je vais pas révéler pourquoi ni comment. En tout cas, Greg Capullo nous fait un Batman assez... c'est un espèce de mélange entre le Batman du dessin animé, j'ai trouvé, et puis...
Y a un petit côté Miller dans son Batman, je trouve.
Aussi, ouais, enfin voilà, c'est un espèce de savant mélange, et le résultat est vraiment pas mal. J'ai pas reconnu le trait habituel de Greg Capullo, il a quand même adapté son style à la série.
Mais ça, il le fait à chaque série, hein. c'est normal.
Ouais, enfin moi je m'attendais à un truc plus à la Spawn, hein, puisque les similitudes entre Batman et Spawn sont quand même assez grandes, et puis non, finalement c'est un style tout à fait...
Qui colle à Batman.
Ouais, enfin voilà, c'est vraiment vraiment très très bon graphiquement.
Déjà, il a pas une cape qui fait 8 km de long.
Oui, tout à fait, ouais.
Parce que c'est vrai que c'est la marque de fabrique de Spawn, c'est-à-dire qu'il a une cape qui... Voilà, c'est un bâtiment en fait.
Ouais, puis sur la première couve, la première version de la couve, il avait effectivement une plus grande cape que sur la version définitive. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que comme tous les grands artistes, il nous fait une espèce de splash page de la Batcave, oui. Mmh. Sa Batcave, franchement, elle claque. Je trouvais ça très très beau. Enfin bref, graphiquement, c'est une merveille ce comics. Enfin, c'est une merveille. C'est pas mal du tout, en tout cas. Sinon, point de vue scénario, alors on retrouve vraiment le Batman dans la continuité que l'on connaît, c'est-à-dire que on voit dans ce comics Dick, on voit j'allais dire Jason, pas du tout. On voit pas Jason, on voit Tim Drake, on voit Damian, bref, on voit tous les Robins qui sont autour de Bruce. Et un petit peu à la manière d'un Batman Inc., Bruce Wayne, au fait, décide de prendre en main, en fait, d'aider la ville de Gotham, quoi. Il fait un petit peu son Tony Stark, il fait un petit peu son philanthrope, quoi, en fait. Sauf que là, au lieu d'être dans le côté Batman, il est plutôt dans le côté Bruce Wayne. Enfin, je sais pas si tu voyais ce que je veux dire.
Mm-hmm. Oh ouais.
Non, mais il utilise la fortune des Wayne pour intervenir dans son identité publique pour aider la ville, quoi.
Tout à fait, ouais, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a l'apparition
La ville, justement, dans ce premier numéro, la ville de Gotham a un rôle important.
Oui, vachement, oui. Mais ça, au fait, Scott Snyder avait commencé à le signifier, au fait, dans ses épisodes sur Detective Comics, que la ville avait des, comment dire, des répercussions sur le comportement de ses habitants.
Et puis dans sa mini-série aussi.
Oui, tout à fait, voilà. Enfin, la ville a vraiment une importance pour
Alors, c'est vraiment, en fait, chez lui, la ville maudite, en fait, Gotham. Ouais.
Voilà, c'est ça.
Qui détruit ses habitants. C'est vraiment ça. C'est une espèce de monstre. Gigantesque,
tentaculaire, allez,
voilà, oui. Poète.
Non, mais enfin, oui, c'est tout à fait ça. Et on assiste à l'apparition aussi d'un nouveau personnage qui peut-être aura une importance. Cette espèce de, alors c'est quoi? C'est un, je sais plus d'ailleurs. Je l'ai lu assez vite. C'est un prétendant à la mairie, je crois.
Oui, le prochain candidat pour la mairie, oui, effectivement.
Voilà.
Donc, Marche, je crois qu'il s'appelle.
Ouais, ouais. Je subodore qu'on le reverra. Hein, puisque le rôle qu'il lui est donné me laisse à penser ça. Il y a un côté un petit peu James Bond, j'ai trouvé, dans ce Batman. Et puis alors, bon, bah il y a ce cliffhanger final qui me fera lire la suite, forcément, parce que c'est assez énorme. Cela dit, et c'est ma seule complainte, au fait, par rapport à ce comics qui est quand même excellent, c'est que ça me rappelle pas mal son arc précédent sur Detective Comics, malgré tout. C'est un petit peu quand même la même intrigue, mais d'un niveau au-dessus, on va dire. Voilà.
Ben, disons que là, il a introduit un nouveau vilain, puisqu'on a les premiers indices d'un nouveau vilain.
Ouais.
Je dirais que c'est la même thématique, mais c'est pas la même histoire pour moi.
Ouais, mais.
Parce que l'histoire, ça tournait vraiment autour de James Gordon Jr.
Ouais.
Et voilà, il utilisait en fait ça comme sa personnification de Gotham. Avec ses deux visages, alors que là, comme il l'a dit dans ses interviews, que il y avait une force dans Gotham très ancienne, plus ancienne que Batman, plus ancienne que tout, et que en fait, alors que Batman pense qu'il connaît sa ville, qu'il la maîtrise, il va se retrouver confronté à quelque chose qui en fait est beaucoup plus puissant que lui, beaucoup plus vieux que lui, et qui en fait ne le prenait même pas en compte, tellement pour elle c'était insignifiant, quoi.
Mais d'ailleurs, il en parle assez bien, en fait. Il fait un espèce
de discours.
De discours, oui. Et puis, il parle des démons, en fait, de la ville de Gotham. Et bon, bah voilà, enfin, c'est un peu ça, quoi. Bon, enfin, on peut pas révéler, de toute façon, qu'est-ce que c'est ce fameux cliffhanger, mais en tout cas, c'est intriguant.
Bah, moi, honnêtement, ce cliffhanger m'a laissé un peu de glace. Je vais pas dire que je m'y attendais, mais honnêtement, je me dis, bon, voilà, j'ai déjà plusieurs pistes de scénario possibles par rapport à ce cliffhanger, et du coup, ça me, enfin, voilà, j'ai pas eu, par exemple, la réaction, comme à la fin du Detective Comics, quoi.
Disons que moi, j'ai quand même été surpris par ce cliffhanger, mais, effectivement, j'ai une idée de comment il pourrait s'en sortir, quoi.
Ouais.
Moi, j'ai vraiment adoré ce numéro. Déjà, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que Capullo se fait plaisir, et Snyder fait plaisir à Capullo en lui permettant de dessiner tous les personnages de Batman. Tout s'y passe, que ce soit les vilains, comme les alliés, entre guillemets, de Batman.
Ouais, c'est vrai.
On voit aussi bien Gordon qu'on voit Bullock, on voit aussi bien des méchants comme Mr. Freeze, comme Clayface, comme Killer Croc. On voit aussi passer James Gordon Jr., vite fait, sur une petite case.
Ah bon?
Le seul qui reste dans sa cellule.
Ah oui, c'était lui.
Donc, Snyder ne l'a pas oublié.
Voilà. Attends, est-ce qu'on voit la fameuse femme voilée?
Oui, normalement, on la voit.
On la voit très facilement, en plus. Oh. Elle est, elle est, au début, je crois. Et
alors,
si je me plante pas, il me semble qu'elle est sous le théâtre où, les parents sont censés mourir, tu sais, dans une des premières pages.
D'accord. J'ai pas fait attention.
Enfin, je l'ai regardé vraiment, je l'ai vu tout de suite, quoi. Donc,
Parce que là, comme ça, je ne la trouve pas.
Elle est à côté de sans-abri qui sont en train de se réchauffer, je crois, quelque chose comme ça.
Ce que j'ai d'autant plus moi apprécié dans le comic, c'est que c'est un très très bon point d'entrée. Par des toutes petites touches, hyper subtiles, mais qui permettent à tout lecteur débutant de comprendre qui est qui.
Oui,
et
oui.
Notamment ce côté avec la reconnaissance faciale. Il teste cette espèce de... On voit que Batman, enfin en tout cas dans cette version-là, se repose énormément sur ses gadgets.
Oui, bah, c'est pour ça qu'il y a un côté très Tony Stark, je trouve.
Ouais,
aussi bien le côté philanthrope que oui, voilà, James Bond, Mission Impossible, enfin un petit peu tout, quoi. Il y a toujours cette scène dans les films comme ça avec la soirée, forcément il rencontre des rivaux durant la soirée et puis il est avec son identité secrète, il est appelé sur le terrain, enfin voilà quoi. Il y a vraiment un côté très agent secret.
Et quand il utilise ce truc de reconnaissance faciale, on a un petit encart à côté qui nous explique qui est qui et sa petite occupation. Donc, c'est-à-dire que, comme ça, on apprend qu'il y a Dick Grayson, on apprend qu'il y a Tim Drake, on apprend qu'il y a Robin, qu'il y a, pardon, Damian, qui ont tous été des Robins. Et voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, pouf, ils savent tout de suite.
Ouais.
Exactement.
Et ça, franchement, c'est hyper intelligent. Ça prend pas de place. C'est pas non plus forcé. Et voilà. Enfin, voilà comment on fait rentrer des nouveaux lecteurs dans un comic tout de suite.
Du coup, j'ai appris le nom de famille d'Alfred.
Pennyworth, ouais. Oui.
Qui vaut donc un penny.
Tout à fait.
Voilà, c'est ce que j'allais dire, mais je n'ai pas osé.
Franchement, un très très bon épisode, un cliffhanger très intéressant. Que demander de plus, quoi.
Voilà.
Ouais.
Non, bah, c'est sympa.
C'est dans la droite lignée de ce qu'il a fait sur Detective Comics. C'est aussi bon. Donc, voilà. Il maîtrise vraiment bien Batman. Il y avait juste la petite appréhension, est-ce qu'il serait aussi bon sur Bruce Wayne qu'il l'a été sur Dick Grayson? Et oui. Donc, c'est vraiment un ultra-bail à ne pas rater.
Moi, il y a juste un truc qui me choque, quand même. C'est par rapport à Batman Inc. Puisque on a bien vu que dans les épisodes des semaines dernières, Batman Inc. existe toujours, notamment dans Batman et Robin. Mm-hmm. Il y a toujours ces différents Batman à travers le monde.
Ouais.
Et là, donc, Bruce Wayne propose ce plan pour Gotham, mais bizarrement, personne ne parle du fait qu'il finance Batman dans le monde entier, quoi.
Non, ouais, mais c'est vraiment maintenant l'affaire de Morrison, donc...
Ouais, mais enfin, en même temps, les deux peuvent fonctionner comme ça, quoi. À la fois, il peut gérer son armée de Batman, et de l'autre, être celui qui va gérer les affaires internes de Gotham City.
Moi, je trouve ça étrange qu'un candidat à la mairie ait envie de s'investir avec un mec qui va financer Batman, qui est censé être un hors-la-loi. Parce que là, finalement, dans ce Batman...
Il n'est pas vraiment hors la loi dans Batman Inc. Il est
Quand on le regarde dans Batman, dans Detective Comics, il est poursuivi par la police.
Oui,
la police,
c'est ça qui n'est pas normal, au fait.
Ici, ouais.
Detective Comics qui n'est pas normal. Dans... C'est Detective Comics qui s'intègre mal dans la continuité, mais je veux dire, le reste de l'univers, le reste dans Batman and Robin, dans Batman et dans Batman Inc., ça correspond plus ou moins.
Bah oui, là, il n'est pas poursuivi par la police. Donc, il y a pour moi un petit souci de continuité. Il va falloir que les choses se tassent. Espérons que ça se fasse vite, parce que la première arc, ça peut être... ça va durer 6 mois, bien sûr, mais ça peut être excusable. Par contre, si c'est le même cas dans le deuxième arc, ça va poser des gros problèmes, je pense.
Ouais. Et oui. Encore une fois, Tony Daniel a merdé.
Oui, pas forcément Tony Daniel, je pense que c'est les éditeurs qui font mal leur boulot.
Bah, en même temps, voilà, oui, comme dirait Steve, c'est aussi un petit peu à eux de dire « bah non, tu peux pas faire ça ». Enfin, voilà, il y a un côté...
Surtout que l'éditeur des titres Batman, c'est le même.
Oui, mais il y a 150 titres Batman, donc...
Il y en a un par semaine, quoi, en fait.
Disons que si dans les titres mineurs, je sais pas moi, comme par exemple Nightwing ou Red Hood, ils sont raffiliés à Batman,
ça, c'est pas grave. Ouais.
Il y a des petites erreurs, ça peut encore passer. Maintenant que sur les gros titres Batman, il y a des différences à ce point, c'est gênant. Là, l'éditeur fait mal son boulot. Alors peut-être que ce sera expliqué dans les prochaines parties, c'est vrai qu'on est qu'au premier numéro, mais ça laisse poser des questions, parce qu'ils jouent gros avec ce relaunch, encore une fois. Ils veulent redéfinir tout l'univers d'un coup. Peut-être que ça n'a pas encore été assez pensé en amont. Il y a peut-être des petits problèmes. On verra d'ici les prochains mois ce que ça va donner, mais bon, en tout cas, ce Batman-là est très très bon. Donc, on est tous d'accord? Un bail?
Oui, un grand bail.
Ouais, un bail, oui, bien sûr.
Ok, eh bien, on va passer à la suite, et c'est Claire qui va nous en parler.
Alors, moi, cette semaine, j'ai choisi de vous parler de Supergirl, écrit par Michael Green et Mike Johnson, dessiné par Mahmoud Asrar, et ancré par Dan Green. Alors, Supergirl, j'en avais jamais lu avant, et là, en fait, ce qui m'a attiré sur le titre, c'est surtout que j'aime beaucoup Mahmoud Asrar, en fait, et j'avais pu voir quelques dessins filtrés sur le net qui m'ont donné envie d'aller jeter un œil à ce qu'il pouvait faire sur Supergirl. Donc, en fait, c'est très simple. On a l'arrivée de Supergirl sur Terre et la découverte de ses pouvoirs, en gros. Il se passe pas grand chose. l'action, elle se résume à 10 mètres carrés à peu près, hein, elle bouge pas plus.
Elle sort pas de sa capsule, en fait.
Non, mais en fait, elle reste autour de la capsule, quoi, c'est vraiment ça.
Mais attends, elle arrive sur Terre adulte déjà ou...
elle arrive adolescente, enfin.
Comme à chaque fois.
Voilà.
D'accord.
Et
c'est marrant, c'est comme les origines de Superman. Tous les 50 les ressort, et ben tous les 50 fait la nouvelle origine de Supergirl.
Bah là, si tu veux, c'est pas tant la nouvelle origine, parce que en même temps, c'est un numéro 1, donc ça me paraît logique que ça reparte sur quelque chose de nouveau. Et pour des lecteurs qui, comme moi, ne la connaissaient pas, on nous explique bien, voilà, elle s'appelle Kara, elle arrive sur Terre en Sibérie. On ne sait pas pourquoi, elle-même ne sait pas pourquoi. Et on est un peu perdu comme elle pense qu'elle est dans un rêve, en fait, parce que ça lui paraît tellement bizarre. Et surtout, en découvrant les pouvoirs qu'elle a par rapport au soleil rouge, elle se dit que ça peut pas être possible dans son monde.
Soleil jaune, plutôt.
Ouais, enfin, c'est rouge, là. Donc, jaune, si tu veux. Et du coup, voilà, on la voit, en fait, se battre avec les personnes qui essayent de la prendre, quoi. Je pense
oula. On est sur un terrain puissant, en même temps, on est au pôle Nord, donc je sais pas où, sur la banque.
Qui essayent de la capturer. Voilà. Mais en fait, elle se bat contre eux, enfin, malgré elle, finalement. C'est plus de l'incompréhension qu'autre chose. Donc, à la fin... Non, on a une personne qui vient et qui met fin à tout ça.
Ouais, alors, devinette, attention.
Devinette, qui ça peut être ? Attention, indice, ce n'est pas Crypto.
Oui, le grand absent Crypto.
Eh oui, hein. Donc finalement, il ne se passe pas grand-chose dans ce comics, comme je vous ai dit, hein, ça se passe vraiment au même endroit. Mais ça nous permet de découvrir l'histoire de Kara, ce qu'elle est, ce qu'elle a fait. Et on prend conscience de ce qu'elle peut devenir. Moi, finalement, ça m'a donné bien envie d'aller voir le deuxième numéro pour voir justement comment elle va s'adapter à cette vie sur Terre.
Et on sait d'où elle vient alors dans ce numéro-là ?
Elle vient de Krypton.
D'accord.
Voilà.
Et elle le sait.
Oui, enfin, elle sait qu'elle est kryptonienne, qu'elle vient de Krypton. Par contre, elle ne sait absolument pas pourquoi elle s'est retrouvée ici.
Et oui, puis
elle ne sait pas qu'elle est sur Terre. Enfin.
Parce que là, elle a déjà un certain âge. Est-ce qu'elle se souvient de ce qu'elle a fait ces dernières années ou...
Elle se souvient de ce qu'elle faisait sur Krypton. Tout à fait.
Non, mais c'est-à-dire que là, elle débarque vraiment sur Terre. C'est vraiment...
Mais oui,
sur Terre.
Elle...
Donc, en gros, tout ce qui s'est passé ces dernières années est effacé.
Oui, voilà. Tout ce qu'avait fait Jeff Lobb dans Superman...
Bon, ça sera pas un drame, ça.
Non, oui, c'était excellent. Hein,
contre c'est Darkseid et compagnie, c'était pas mal.
C'est oui, ce qu'il y avait de mieux sur le personnage. Non, je plaisante.
Non, mais enfin, je sais pas. Bon, encore une fois, c'est tout effacé. Bon, voilà, il fallait bien qu'il y ait quelques pertes. Hein.
Mm. De toute façon...
En même temps, j'ai l'impression que l'univers de Superman, pour le coup, ça reboot bien, quoi. Enfin, c'est vraiment tous les numéros 1, c'est on vous présente le personnage et on y va.
Oui. On reste à voir Superman 1 la semaine prochaine.
Ouais, bah oui, ben.
Bah... Enfin, là, contrairement
je risque de brûler de colère, mais enfin, bon, c'est une autre histoire.
Contrairement à beaucoup, le contexte n'a pas changé, quoi.
Non, pas du tout. Elle est vraiment. Toujours la même, et j'imagine, c'est le même pouvoir.
Enfin, moi, j'ai trouvé la caractérisation bien meilleure que ce que j'ai vu ces dernières années.
D'accord.
Donc, c'est un bail. Et en plus, Mahmoud Asrar dessine vraiment très bien, donc c'est super agréable à regarder.
Pour moi, ça dépend des pages. Il y a des pages qui sont effectivement très bien, quand elles sont centrées en général sur les visages. Il y en a d'autres qui sont un peu plus schématiques, et j'ai vraiment l'impression qu'il y a un peu rushé pour tenir la délire. Notamment la dernière, où là, c'était vraiment un peu... Bon ben voilà.
Non, moi je...
Très bien. La meilleure intervention, je pense, du podcast.
Mais
la meilleure intervention, jusque là.
Je l'ai pas encore lu, donc je peux pas trop donner mon avis, mais j'ai quand même envie d'aller le lire, quoi, histoire de. C'est pas toi, Benny ?
De toute façon, j'essaierai de rattraper mon retard comics. Déjà d'essayer de choper les numéros que je n'ai pas encore. Je pense que Supergirl, il en restera, j'espère. Mais voilà.
Ça part vite, hein, attention.
Ouais, enfin, ça dépend les quels titres.
Non, mais je pense que tout part vite maintenant.
Sauf Legion Lost.
Et Lost, vous le trouvez.
C'est un bail pour toi aussi, Sam, ou pas ?
Oui, ce sera plutôt un check-it, mais...
Check-it ?
Mais c'est un bon check-it. C'est un kit très simple.
Ok. Mais tu vas garder la parole pour la suite, d'ailleurs.
Ouais. Pour parler du nouveau numéro 1 de Wonder Woman. Il y avait longtemps. Sauf que là, c'est vraiment un numéro 1 totalement justifié, puisque... On repart vraiment sur complètement de tout nouveaux éléments à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il y a...
T'as oublié de dire de qui quand même, même si tu le sais, mais bon.
Alors, scénario de Brian Azzarello et dessin de Cliff Chiang.
Voilà, pour ceux qui n'avaient pas suivi.
Non, faut me pardonner, je suis allé. Là, je fonctionne avec un demi-cerveau, ce qui, étant donné qu'en temps normal, je suis sur un demi-cerveau, ça fait un quart de cerveau.
Suffisant, hein, c'est suffisant pour un weekly d'être sur un demi-cerveau.
Donc, pour le moment, il se passe pas énormément de choses dans cet épisode. En gros, une femme se fait attaquer par des monstres. Mm-hmm. Elle trouve une clé magique, enfin, on lui donne une clé magique qui téléporte dans la chambre de Wonder Woman.
T'arrives à quel niveau là ? Parce que là, c'est comme dans un jeu vidéo, là, j'ai l'impression.
Et Wonder Woman décide de l'aider. Donc ensuite, il y a une bonne petite période de castagne, et à la fin, il est révélé pourquoi les monstres attaquent la jeune femme.
Et puis à la fin, il y a la marmotte aussi qui met le chocolat dans le papier d'alu.
C'est un peu mon sentiment à la fin de cet épisode, hein, sans déconner.
Mais non, moi j'ai beaucoup aimé, parce que ça replace un peu le contexte. Si vous êtes un nouveau lecteur, que le seul personnage que vous connaissez de vue, c'est Wonder Woman, ça vous suit. Parce qu'il n'y a pas de personnage ancien ou quoi que ce soit à comprendre. La situation, elle aussi, est entièrement nouvelle. Et ça tourne en fait sur une menace d'apocalypse qui pointe à l'horizon et à laquelle est liée la jeune femme qui est attaquée. Voilà.
Et la mythologie est très très présente.
Très très présente. Il y a un peu de gore, comme le disait, comme le prédisait Azzarello, mais c'est du gore tout à fait supportable.
Oh ben, il avait même dit que c'était un comics horrifique, au fait.
Mm. Oui, c'est un peu l'idée, oui.
Où il y a une scène de décapitation de cheval.
Ouais. Voilà.
Oui, particulièrement traumatisante. Hein. Moi,
ça rappelle le parrain, quoi, disons.
Voilà. Mais disons que j'ai été plus traumatisé par Redwood and the Outlaws qu'autre chose.
Non, mais franchement, moi je trouve que si vous ne connaissez pas Wonder Woman du tout, bah, c'est pas avec ça que vous le connaîtrez.
Non, on n'explique pas, le personnage.
Mais disons qu'Azzarello part vraiment sur l'idée de une toute nouvelle histoire à tous les niveaux. Donc c'est vraiment, si vous êtes un nouveau lecteur, que vous ne connaissez rien, c'est parfait.
Moi, ça me fait quand même penser au premier numéro qu'avait fait JMS, hein, parce qu'il avait tout aussi pareil, il avait rebooté totalement le truc.
Il n'y a pas vraiment de reboot.
Ah non, mais.
Azzarello a dit que grosso modo, il respectait complètement ce qui s'était fait avant, donc il finira par réintroduire, je pense, au fur et à mesure le cast.
Bah écoute, là, et ça là, se voit pas.
Il peut vraiment commencer sur.
Franchement, j'étais beaucoup plus emballé par le premier numéro que j'avais lu de JMS que par celui-ci.
Et bah moi aussi, c'est ce que j'allais dire. J'avais cru que vous alliez tous gueuler, mais j'ai été carrément plus emballé par le premier numéro de JMS, pareil, avec l'histoire de.
J'aime bien parce que pantalon.
Oui, non, enfin bon, bref. Enfin, en tout cas, ça m'avait plus passionné que ça.
Ouais, moi aussi, honnêtement.
Même si par la suite c'était pas top.
Oui, voilà. Ça s'est bien
De toute façon, il s'est barré, donc il s'est barré très vite au bout de 3-4 numéros. Mais là, honnêtement.
JMS, moi, je trouvais sur ses premiers épisodes, c'est que c'est assez vide. Alors que là, on sent vraiment qu'il y a du fond. Il y a de la substance. Ouais,
c'est-à-dire que là, on va vraiment au fond du fond, quoi.
C'est vrai qu'honnêtement, cet épisode-là, il est pas facile à comprendre. Enfin,
Il y a pas grand-chose à comprendre. Enfin, c'est pour ça que, franchement, je sais pas le problème avec l'épisode. Si vous êtes un ancien lecteur, vous redécouvrez un peu le personnage, parce que là, Azzarello l'a complètement dépouillé, donc il reste plus qu'elle.
Le problème, c'est que c'est hystérique, ça part dans tous les sens.
Il y a deux directions, ça part pas dans tous les sens.
Si, t'as une bonne femme dans une grange, t'as un cheval qui se fait décapiter, t'as un type qui
s'en fout. Ça parce que tu l'as lu à 50 km/h.
Non, si. Attends, sérieusement. C'est
vous voulez la bonne blague, c'est que je l'ai lu pourtant pas à vitesse grand V, mais du coup je n'ai même pas fait gaffe si Wonder Woman était en pantalon ou non. C'est quand même tellement ça réfléchit.
Non, je crois pas.
Dans le temps, c'est un détail dont je m'en foutais.
Au début, elle est à poil, de toute façon, dans un lit.
Ouais, tout à fait.
Vous avez remarqué
personne du comics.
Le petit rappel à Flashpoint, elle est à Londres.
Ouais.
Oui, c'est vrai, oui. Effectivement.
Ce que je trouve être une bonne idée, perso.
Ouais, parce que Londres, c'est vachement bien.
Bah, disons que pour la mythologie, c'est quand même mieux de la placer en Europe, quoi. Mm. C'est quand même plus crédible.
Oui, c'est sûr.
Je retrouve, je dirais, toutes les forces de Azzarello sur les comics qui signent. C'est-à-dire que c'est vraiment du comics avec du sens, avec une direction, avec un peu de réflexion, voilà. Donc.
Putain, c'est à croire qu'on n'a pas lu le même comic, quoi.
Oui, j'ai l'impression, oui. En plus, non mais franchement, les dessins de Killshan sont superbes.
Ah non, moi j'aime pas.
J'aime pas du tout.
Donc on n'a pas lu le même comics.
Mais attends, t'es sûr que t'as pas lu le bon?
En fait, il a lu le premier Wonder Woman du relaunch précédent.
Non, j'aurais reconnu Terry Dodson quand même.
Bah, c'était 100 fois plus beau.
Ah non, Cliff Chiang, moi je j'aime pas.
Ah, moi j'ai adoré.
Je trouve pas ça. Là, une tête, par exemple, écoute, Sam, sur la page où elle dit je suis Wonder Woman, là, où elle met ses fringues, elle a vraiment une tête. Franchement, c'est pas terrible, quoi.
Franchement, je préfère la version de Cliff Chiang à celle de Jim Lee.
Est-ce qu'elle a pas grandi, Wonder Woman?
Non, elle retrouve sa taille normale. Ça,
oui,
c'est.
Elle a plus 3 ans comme sur la couverture de la Justice League. Quoi.
Voilà, de David Finch. Mais je trouve, en fait, les auteurs ont pas arrêté de diminuer sa taille au fil des années. Alors que putain, c'est une Amazon. Elle doit faire 2 mètres, c'est sa taille normale pour moi.
En même temps, là, les ennemis sont tous des géants. Tu regardes,
voilà. Donc c'est.
Bah c'est tous des créatures plus ou moins mythologiques à moitié, donc c'est normal que ce soit grand.
Moi franchement, pour moi, c'est pas comme ça qu'ils relanceront la franchise Wonder Woman.
Ah moi si.
Donc au final, pour toi, c'est un ultra buy.
Oui.
Ouais.
Pour moi, c'est un total pass.
Pour moi, c'est un check-it.
Oui, pour moi, c'est juste un check-it, effectivement, ouais. Comme Claire, pour la curiosité, parce que c'est vraiment curieux, quoi. C'est justement le cas de le dire.
C'est ça.
C'est ouf, qu'est-ce que c'est que ce truc?
Moi, je dis, c'est un pass, attendez le prochain numéro, parce qu'à mon avis, vous comprendrez tout aussi bien. Vu qu'on n'a rien d'expliqué dans ce premier numéro. Donc,
mais si, peut-être expliqué pour moi. Hein.
Alors, tu vas nous faire toute une explication. Tu vas nous faire une lecture de, enfin une explication de texte par écrit sur Comic City.
Et moi en fait je me pose une question.
Je fais un Osmocon, putain, si c'est comme ça.
Attends, l'espèce de grand méchant là qu'on voit, c'est pas son méchant habituel?
Non, c'est un nouveau personnage aussi. C'est une réinterprétation, je pense, d'un ancien personnage, mais comme il va être complètement remodelé.
Parce que d'habitude, c'était qui son grand ennemi là?
Que JMS sorti. Y a Chita, il y a Circe, il y a...
Non mais un mec que JMS avait ressorti. Arès,
ah non, non, c'était pas Arès, c'était un autre. Mais il est mort au bout de 4 épisodes, donc on s'en fout.
Oui mais là il est peut-être ressuscité du coup.
Ouais, on s'en fout, vu le manque total de charisme du mec.
Ouais.
Bah là en même temps, le nouvel ennemi, il fait tomber, il grille 3 prostituées en haut d'un immeuble. Bon, enfin...
Ouais, c'est clair, c'est niveau charisme...
On dit pas prostitution, on dit escorte.
Bah ça dépend en fait. Les escortes c'est quand elles viennent chez toi.
Mais là disons que c'est plus des escortes que des que de sans.
C'est vrai, non, oui, c'est vrai.
Qu'est-ce que c'est que cette discussion là?
Non, mais c'est très très important. Non bah bon donc oui, bon bah.
Ouais. Ça laisse présager que le mec a plus de frites parce que de simples putes tu les payes que dalle la passe quoi, $20 la passe et voilà. Des escortes c'est $1000 la passe.
Les tarifs hein, si tu veux.
Non, il suffit de regarder n'importe quelle série américaine, tu te rends vite compte des tarifs.
D'accord.
Non, écoute, là, je regarde une page de Cliff Chang avec le croupion d'un cheval. Non, franchement. Non, il y a un problème de proportion, quand même.
Il était peut-être arrivé des misères à ce cheval, hein, on va savoir.
Oui, je sais pas, il a pris un truc dans les fesses.
Non, mais je voulais pas le dire comme ça, mais bon, voilà. Ça, c'est fait. Allez, on va passer à la dernière solo de la semaine. Ce sera le Green Lantern Corps, numéro 1, par Peter Tomasi. Ouais, c'était comme son prénom. Fernando Pasarin et Scott Hanna à l'ancrage. Et donc là encore, c'est une directe suite de ce qui s'est fait tel dans Batman. C'est un relaunch, mais absolument pas un reboot de la série. On a Guy Gardner et John Stewart qui vont essayer de retrouver du taf sur Terre, mais ça va pas forcément bien se passer. Quelques scènes assez comiques hein, d'ailleurs dans ce premier épisode. Voilà, bon après ils vont aller sur Oa pour répondre à une crise, enfin une nouvelle mission qui les appelle. Et on a une scène d'intro qui était quand même assez rentre-dedans, qui tout de suite fait plonger dans le comic. On voit un ennemi, enfin on voit pas grand-chose, on voit juste quelques parties de cet ennemi, on ne le voit pas purement. On voit que ses mains, en fait.
D'accord, oui, parce que tu nous as fait peur, quand même.
Et, je sais pas, on verra si c'est le cas ou pas, mais je pense que c'est un ancien ennemi qu'on a vu il n'y a pas si longtemps que ça.
C'est Black End.
Oui, je vois.
Moi,
je
j'ai pensé à lui. J'ai pensé à lui tout de suite, ouais, voilà. Maintenant,
c'est vrai
on verra
que ça s'accorderait bien avec le perso en plus qu'il fait.
Ah bah voilà, je l'ai pas lu, hein. Non mais c'est ça en plus.
Moi j'aurais tendance à penser
non,
que
non,
c'est.
Non, mais le vilain est pas révélé.
Non, mais d'accord, mais je veux dire, c'est ce à quoi vous avez pensé.
Oh oui.
Parce que moi j'ai absolument pas lu le comics, je ne l'ai jamais vu, enfin je dis ça comme ça quoi.
En même temps, quand tu vois un vieux gant noir.
Non mais c'est pas Black End, ça.
Ouais, je sais pas.
Non, après ce qu'on a vu dans les derniers épisodes de Green Lantern, c'est pas lui. Non, je pense à quelqu'un d'autre.
Ah d'accord, bon, on en rediscutera en off alors.
Bah tu peux le dire remarque puisque c'est pas un spoiler.
Oui, c'est de la supposition.
Oui. Je peux le dire?
Oui bah vas-y, de toute façon c'est une supposition.
Comment il s'appelle merde?
Merci.
Le
grand
jaune, effectivement, oui.
Le grand mec jaune, Mongoul.
Ah Mongoul avec des gants noirs, ça m'étonnerait quand même.
Non mais tu sais parce qu'il a perdu un bras.
Pas de bras, pas de chocolat. Hein.
Il a perdu un bras à un moment et en fait il utilisait les anneaux jaunes pour maintenir sa cohésion.
Peut-être,
et comme il a perdu ses anneaux jaunes. En plus, ça s'accorde vachement bien avec le personnage, puisque son taf préféré, c'est d'aller massacrer des mondes.
Remarque, si ça tombe, c'est un mec qu'on n'a pas vu depuis 15 ans. T'sais.
Oui, parce que, effectivement, comme tu le dis, Sam, la crise sur laquelle ils vont intervenir, c'est donc qu'il y a deux Green Lantern de mort dans le secteur 3599.
En plus, à la fin.
Et, c'est juste les deux Green Lantern sont les mêmes. Ceux que l'on voit à la fin, c'est les...
Non, mais je crois que c'est l'équipe de secours qu'ils ont envoyé la première.
Ah, possible. Et du coup,
envoyer une avant
y a une planète, ouais, une planète qui se fait mais ravagée quoi. Voilà. Et donc ils arrivent là-dessus et.
C'est pour ça que moi je pense à Mongoul.
Ah, effectivement, ta supposition est pas mal aussi. Ouais. Enfin, en tout cas, moi ça m'a super plu. C'est excellent. Bah, c'est du Tomasi de toute façon sur Green Lantern Corps. Hein. Manque Kyle, mais on sait très bien que Kyle va être dans New Guardians. Mm. C'est vrai que lire du Green Lantern Corps sans voir Kyle, ça fait bizarre.
Ouais, je confirme.
Et non, franchement, un très bon premier épisode. Il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a du mystère, il y a tout ce qu'il faut et qui donne envie d'aller lire le deuxième épisode. Donc voilà. Bon, seul reproche, si on peut en faire un, c'est que bah c'est la directe suite de ce qu'on a lu, quoi.
Mmh. Bah, comme je disais hors antenne tout à l'heure, au fait, on se rend compte que ceux qui n'ont pas changé, les auteurs qui étaient déjà là avant, nous font la suite et seuls les nouveaux arrivants donc rebootent totalement les séries sur lesquelles ils sont, enfin les séries desquelles ils s'occupent, quoi.
Pour Thomas 6, c'est un cas à part.
Je dirais quand même qu'il réintroduit vachement bien les personnages. Si on n'a rien lu avant, oui, c'est pas grave.
On comprend très bien qui est qui.
Voilà. Comme il n'utilise pas des situations qu'il avait préétablies avant, pour le moment, on n'a pas besoin vraiment d'avoir lu les épisodes précédents pour comprendre.
Et puis finalement, c'est pas forcément une suite directe étant de l'artiste, étant donné que Thomas 6 écrivait Emerald Warriors et que c'était Tony Bedard qui écrivait Green Lantern Corps. Donc ouais, bon, il reprend le titre qu'il avait avant, mais voilà, c'est pas la suite directe, quoi. Au niveau scénariste en tout cas. Enfin bref, pour moi c'est un gros bail.
Ouais. Disons qu'il a fait un vrai numéro 1, contrairement à Geoff Johns sur Green Lantern.
Ah oui.
Voilà. Bah disons que moi pour Green Lantern, on aurait pu mettre 68 sur l'épisode, ça aurait été la même chose.
Ouais, exactement.
Est-ce qu'il y a Marie-Ange Nardi au fait?
Oui, elle fait une apparition.
D'accord.
Donc là, je cherche la vanne.
Bah parce que vous vous souvenez pas de l'émission qui est qui. Voilà. En plus, j'ai mis du temps à la sortir parce que je me disais, attends, comment elle s'appelait cette. Donc c'est encore plus miteux, tu vois. C'est oui. Deux minutes après.
Avant de passer au Review Express, on accueille Nono.
Bonjour.
Qui vient nous parler du Paris Manga Show.
Voilà. Non, tout d'abord, je voulais dire que je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit, sauf Sam. Je suis absolument pas d'accord avec lui. Donc voilà, ça, comme ça, au moins, c'est dit.
Voilà, c'est fait. Donc Sam, coucou à toi.
Voilà. Donc oui, le Paris Manga Show. Donc ça aura lieu le 1er et 2 octobre. Donc ça approche, c'est très très bientôt. C'est le week-end prochain. Ça dépend quand vous l'écoutez. C'est peut-être le prochain week-end en fonction de l'heure à laquelle vous et du jour à laquelle vous écoutez ce Comics Weekly.
Mais donc voilà. Je tiens à faire un coucou aux gens du futur qui vont nous écouter.
Voilà, également parce que on vous aime bien et venez nous donner les numéros du loto. Ça peut toujours être utile et promis, ça se passera pas comme dans Retour vers le futur. C'est, on vous le promet.
Ouais. Et puis on partagera, on est sympa.
Oui, ouais, complètement. On partagera entre Steve et moi. Il y a aucun souci. Donc voilà, donc le Paris Manga Show, 1er et 2 octobre à la Porte de Versailles, sur le site Comic City, vous pouvez d'ores et déjà gagner des places. Il y a un petit concours qui a été mis en place pour gagner quelques tickets d'entrée pour venir au Paris Manga. Donc les billets sont valables le samedi ou le dimanche. Si vous n'avez pas déjà réservé vos places et que vous avez prévu d'y aller, n'hésitez pas, la question est relativement facile pour ceux qui écoutent régulièrement Comic City et qui connaissent un peu l'actualité comics du moment. Donc voilà, sinon, qu'est-ce qui va se passer au Paris Manga Show?
Eh bien, il y aura des gens.
Oui, il y aura des gens. Il y aura du cosplay.
Donc, ça fait toujours plaisir.
Ouais, ça fait toujours plaisir. Par contre, prévoyez un stick de déodorant pour proposer aux gens qui passent à côté de vous et qui sentent la transpiration, leur proposer un petit coup de déo. Ça fait pas de mal et ça fait plaisir à tout le monde.
Et puis, quand on veut prendre une photo avec un cosplayer ou une cosplayeuse, eh bien, un petit coup sous le bras et comme ça, on peut mettre le bras sur l'épaule.
Voilà, et on peut pas mourir.
Ouais, c'est... Voilà. Non mais c'est vrai que dans les festivals c'est toujours un problème.
Les festivals.
la transpiration, tout le monde transpire, hein, c'est normal, mais ouais. C'est vrai que c'est toujours désagréable quand on arrive et que on dit bonjour à quelqu'un et qu'il sent le fauve.
Étonnamment, c'est souvent les filles. Alors c'est ça ce qui est un peu dérangeant, c'est que les filles sont hyper sexy en cosplay, etc. Et quand elles passent à côté de nous, eh ben tout de suite ça retombe, quoi. Donc voilà,
nous ne dirons pas ce qui retombe.
Voilà, c'est non, on ne parlera pas de demi-molle ou autre, ça restera entre nous, mais voilà, c'est dérangeant. Donc venez avec votre stick de déo, avec une petite pancarte Free Déo ou à la place de Free Hug, c'est toujours mieux qu'un Free Hug qui ne sert strictement à rien. Donc
sinon, on va sentir le fauve soi-même après.
Oui. Donc sinon. Donc cosplay, oui, beaucoup de cosplay. Il va y avoir des défilés de cosplay également, principalement dimanche sur la scène principale, avec beaucoup de lots à gagner. Donc sinon, nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est les artistes comics qui seront là, et encore une bien belle affiche cette année, parce que nous aurons en vrac Gary Erskine, qui est un habitué des festivals en France. J'aime bien festivals. Il sera là également au Lille Comics Festival. Il est là chaque année au Paris Manga, au Lille Comics Festival. Il adore, il préfère en fait beaucoup ces petits festivals aux plus gros, parce que il a plus de contacts avec le public et c'est beaucoup plus sympa en fait.
Et puis c'est un gars extrêmement gentil en plus.
Ouais. Il y aura notre ami Julien Huguenard-Bert, donc qui sera là également pendant ces deux jours. Donc la question porte sur lui, sur comiccity.fr.
Combien chose-t-il?
Voilà. Donc si vous nous écoutez régulièrement, vous le savez, hein, y a pas de problème. Sinon, on aura également Renato Guedes, qui était là à la Comic Con cet été, qui sera là au Paris Manga. Donc Renato Guedes, c'est celui qui a dessiné beaucoup de Superman.
Avec Kurt Busiek. Non, pardon, c'était pas Kurt Busiek, c'était James Robinson.
Voilà. Voilà, sur New Krypton. Et là, en ce moment, il dessine sur du Wolverine. C'est assez chouette ce qu'il fait. On aura qui? On aura Doug Braithwaite.
Ah oui.
Voilà, donc un Anglais qui a beaucoup dessiné sur du Judge Dredd ou du Doctor Who. Et là, on va
passer sur du Punisher récemment.
Ouais, ou encore Fear Itself, récemment. Nous aurons également Clint Langlais en dédicace. Donc Clint Langlais, c'est un illustrateur assez connu parce qu'il a beaucoup bossé sur la série 2000 AD en Angleterre. Et il a fait également beaucoup de couves pour Marvel, notamment Hercule, Annihilation, Conquest, Ghost Rider, etc. Et là, il sera là pour dédicacer sa couverture de French Crow 5 qu'il a réalisé récemment.
French Crow qui est juste un truc hyper génial.
Ouais. Complètement, c'est en fait la France a récupéré les droits et peut se permettre d'éditer cette série qui, pour ceux qui ont aimé les films The Crow, il y a également eu des comics The Crow.
Le comic de Joe Barr.
Voilà.
Barr plutôt.
Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On aura James Hodkins également, qui a beaucoup bossé chez DC, notamment sur du Catwoman, etc., qui est également très sympa. On aura, en invité d'honneur, alors ça c'est vraiment pas mal, on aura Greg Horn.
Excellent cover artiste.
Voilà, qui est très connu pour ses dessins de nana bien en chair, on va dire.
C'est magnifique Emma Frost.
Ouais, complètement. Donc ça sera l'invité d'honneur comics du Paris Manga. Dans la partie comics, on aura ceux qui ont monté le bouquin No Zan Estrange, qui sort là ces jours-ci.
Oui, dont on avait déjà parlé dans le dernier Comic City.
Voilà, donc ils seront là en dédicace. Donc Sébastien Carletti et Jean-Marc Lenné. Et on aura également beaucoup d'artistes de la WIP, qui sont là également chaque année. Vince Altabanaz, Eric Godot, des gens comme ça qui seront là.
Des gens super sympas, ouais. Super accessibles, et qui ont un talent fou. Et n'hésitez pas à aller les voir et à découvrir les choses qu'ils font, parce que vous serez surpris. Ce sont vraiment des gens géniaux.
Carrément. Ensuite, on va parler brièvement des autres artistes, parce que le Paris Manga, évidemment, parle aussi beaucoup de manga. Il y aura des gens comme Yokota Mamoru, qui a dessiné, par exemple, Death Note, qui sera là. Il y aura Yuji Shiyazaki, qui a dessiné Karen, Happy Man, qui doivent parler certainement aux fans de manga.
C'est vraiment, je ne connais pas, là.
Non, moi non plus.
Autant Death Note, je connais de nom, mais que là... ça me dit rien du tout.
Voilà. Et il y aura également Shingo Araki, donc lui qui est un peu plus connu, qui a beaucoup travaillé sur les adaptations d'animation japonaise, telles que Saint Seiya ou Ulysse 31, qui est, on va dire, un gros nom de l'animation japonaise.
Effectivement, oui.
Donc après, il y en a d'autres au niveau manga, mais dans la mesure où je les connais pas, et je sais pas si vous les connaissez, je vais pas trop en parler.
Mais de toute façon, le plus simple, c'est de vous rendre sur le site du Paris Manga et de regarder le programme.
Ouais, carrément. Donc c'est parimanga.fr tout simplement. Et par contre, il y a des gros noms au niveau télévision. Alors, télévision, cinéma. Il y a Anthony Daniels. Donc Anthony Daniels, c'est C3PO dans toute la saga Star Wars.
C'est pas n'importe qui, donc.
Voilà. Il y a Michael Shanks qui jouait le rôle du Dr. Jackson dans Stargate.
Monsieur Daniel Jackson.
Voilà.
Et puis qui a joué d'autres choses aussi. Hein.
Oui, qui a récemment joué le petit chaperon rouge, qui est apparu dans un épisode de Reka, il me semble.
Oui, il est passé aussi dans Burn Notice. Il était passé aussi, je crois, dans un épisode des Experts, où il faisait le
méchant. Ouais, dans 24 heures.
Miami, je crois.
24 heures.
Aussi. Ah, d'accord.
Ouais, Supernatural, Smallville, donc un gros acteur de série télé.
Oui, bah oui, c'était le Hawkman de Smallville.
Oui, bah oui, ah oui, c'est vrai, oui, exact. J'étais en train de me demander qu'est-ce qu'il avait joué dans Smallville, mais oui, c'était Hawkman. Et attention, alors là, moi, ça vous rappellera à tous des choses. William B. Davis.
Oh, Mr. Smoking Man, quand même.
Voilà, l'homme à la cigarette.
Oui, bon, et s'il n'est pas avec quasiment... sa clope, offrez-lui une clope.
Ouais, non, mais apparemment, il a arrêté de fumer avant de devenir l'homme à la cigarette.
Alors, ça va être terrible.
Ouais, je me souviens que j'avais à l'époque j'étais un énorme fan de X-Files et il disait qu'en fait il fumait des cigarettes aux herbes légales et qu'il fumait des cigarettes à l'eucalyptus ou des trucs comme ça pour justement parce qu'il voulait absolument pas se remettre à fumer.
Mais c'est terrible quoi, quand t'arrêtes de fumer tu te tapes un rôle comme ça, mais ça va être juste atroce quoi.
Ouais. Et apparemment, c'est un militant actif contre la cigarette. Donc,
le mec est super comme, franchement, voilà. J'adore.
Donc, tu sais, c'est au niveau acteur, donc c'est des gros noms. Et un truc qui risque de faire plaisir à Steve, un invité au niveau du catch, je sais pas si tu le connais, c'est Joe E. Legend.
Je ne connais pas. Enfin, là, comme ça me dit rien, mais si ça se trouve, oui, effectivement, je le verrai et je te dirai. Mais oui, bien évidemment.
Ouais, donc voilà.
En même temps, j'ai pas toute ma tête, hein. Je suis complètement HS, sous mes docs, voilà.
Voilà. C'est un catcheur canadien qui a catché pour la WWE, la NWA, TNA, des choses comme ça. Donc
ça fera plaisir à Bunny aussi.
Ouais, c'est très sympa le catch au Paris Manga. J'avais vu l'année dernière où il y avait je sais plus qui. T'en avais parlé, je me souviens, Steve. Apparemment, c'est un mec hyper connu du catch. Et je me souviens plus de son nom. Et c'était excellent de les voir catcher comme ça. On est juste devant le ring et c'est très très drôle.
On en prend plein les yeux.
Ouais. Il y avait le sosie de Benabar, je me souviens, qui catchait aussi. C'est bon. On l'avait vu avec Bunny et ça nous avait bien fait marrer. Donc voilà, donc ça c'est le programme du Paris Manga. Donc Jean-Lo et moi y serons. On sait pas encore quel jour, moi ça sera sûrement le dimanche, Jean-Lo je ne sais pas, donc on sera du côté comics hein, forcément, vous nous verrez certainement en train de discuter avec Julien ou Gary ou d'autres, donc n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, n'hésitez pas à répondre au questionnaire, à la question sur Comic City pour gagner vos places.
Bien sûr, s'il y a plus de bonnes réponses que de l'eau, on fera un tirage au sort.
Oui, donc j'ai précisé d'ailleurs que c'était Gizmo qui allait tirer au sort les gagnants.
Oui, puisque c'est une main totalement innocente.
Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le Paris Manga. Donc c'est notre prochain rendez-vous festival. Donc 1er et 2 octobre à Paris Porte de Versailles. Et on revient très prochainement vers vous pour vous parler du prochain gros event dans l'univers comics français qui est le LCF.
Ah, j'ai cru que tu allais nous annoncer Fear Itself, mais...
Non, bah si, Fear Itself chez Panini en novembre. Mais, Voilà, donc le LCF, donc 5 et 6 novembre de cette année à Lille.
Et on en reparle de toute façon très très prochainement.
Voilà.
Et puis surtout, rendez-vous au Paris Manga Show et n'hésitez pas à aller voir tous ces merveilleux artistes et en profiter pour un petit dédicace, échanger un petit mot avec eux. Et voilà, ce sont des gens qui sont tous très abordables. Oui. Ils adorent le contact, discuter et échanger avec les fans. Et,
De toute façon, ce qu'il faut vous dire, c'est que si les artistes viennent en convention, c'est pour discuter. Parce que le boulot de scénariste ou de dessinateur ou d'encreur, c'est un boulot assez solitaire, Julien nous en avait parlé. Et ils adorent justement venir en convention pour pouvoir discuter, se taper le bout de gras avec les fans, etc. Et en plus là, sur les gens qui sont là au Paris Manga, j'en connais quelques-uns depuis quelques années, et ils sont vraiment sympas, quoi.
Bien, eh bien, on va reprendre la suite de notre programme avec maintenant la fin du relaunch d'essai de cette semaine, les Review Express.
Oui, j'ai adoré. J'ai adoré les Review Express, c'était magnifique.
Oui, parce que, bon, petit secret de montage, on a enregistré ça le lendemain.
Voilà, j'étais pas dispo pour l'enregistrement, alors que j'avais lu plein de trucs, mais j'étais pas dispo. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je suis pas d'accord du tout avec ce que Sam a pu dire.
Il appréciera.
Voilà.
Bon bah ça nous laisse entrevoir un joli fight. Vous pourrez régler ça sur le ring du Paris Manga Show.
Du Paris Manga, ouais.
Filmé, hein, je veux pas rater le Merci Nono, et donc on reprend le programme avec les Review Express.
De rien, au revoir les enfants.
Allez, on va commencer par celui que personne n'a lu, hein, comme ça ce sera fait, le DC Universe Presents.
C'est vachement bien, c'est un bail. Franchement, c'est un bail extraordinaire.
De Paul Jenkins et Bernard Chang, donc qui se centrent sur le personnage de Deadman. Bah, personne n'a lu par manque de temps, en fait.
Oui, surtout tout ça. Donc, moi, je voulais voir un peu ce qui devenait après Brightest Day.
Donc, j'ai envie de dire, c'est mort.
Ouh.
C'est bien.
Il y a de l'humour. non, en tout cas, moi, ça m'intéresse. J'ai envie d'aller le lire. C'est juste un vrai manque dedans, puisqu'on enregistre jeudi soir. Donc voilà, les comics sont sortis depuis hier.
On a et on les a reçus il y a quelques heures. Donc
voilà, on n'a pas forcément eu le temps de.
On a tout lu cet après-midi.
Enfin, moi, ce soir, en fait.
Ouais.
Allez, on passe à la suite. Le Birds of Prey de Dwayne Swarzynski et Rezu 16.
Lu.
La bonne surprise de la semaine.
Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé.
Ben allez-y, hein, parce que moi, je ne l'ai pas lu.
Ben, disons que moi, le problème, c'était le scénariste.
Je sais que tu aimes tellement Dwayne Swarzynski.
T'arrivais pas à prononcer son nom.
Voilà, donc je ne le prononce pas, je laisse Steve sa voilà.
Mais je sais que tu es un grand fan, hein, de son boulot, et notamment ta série préférée, c'est comme la série Câble.
Oui, oui, que j'ai adoré me torcher avec.
Oh, mais,
d'ailleurs, tu vas t'acheter l'omnibus. Hein.
Ben, je suis en manque de papier, donc oui. non, c'est vraiment une. Voilà, je m'attendais à rien. Et voilà, il y a une bonne introduction des persos, bonne introduction de la situation.
Donc l'histoire était sympa, il y a un bon petit cliffhanger à la fin.
Du lot, c'est la relation Barbara Gordon avec les Birds of Prey. Hein.
Alors, comment on se fout de sa gueule d'ailleurs, t'as remarqué?
Attends, moi j'ai une question parce que je l'ai pas lu. Et Barbara Gordon, c'est Batgirl?
Oui.
D'accord. Enfin, je veux dire, non, c'est pas, je veux pas savoir si c'est Batgirl, mais je veux dire là-dedans, en l'occurrence.
Oui, c'est bien.
Oui, elle marche, quoi.
Oui, d'accord. Oui.
Black Canary va recruter Batgirl. Batgirl l'envoie chier.
Black Canary se fout bien de sa gueule, quand même, hein, voilà. En lui disant « Alors, comment ça va, Barbara ?» et tout, t'es là, ouais. Tu respires la santé et tu marches. C'est, moi, j'ai bien rigolé.
Manifestement, elles se connaissent. Elles ont des liens passés, mais... C'est pas confirmé que Oracle était à la base de l'équipe.
Ah non,
c'est un peu problème.
Mais est-ce qu'on sait qu'elle a été Oracle alors là-dedans?
Non. Oui, justement, c'est aussi la question que je.
Non, je crois pas. Hein.
C'est pas confirmé.
Non.
D'accord, donc c'est jamais précisé au fait si elle a eu un passé en tant qu'Oracle. Quoi. Et oui, donc en fait, elle se fout de sa gueule, elle se fout un petit peu de la gueule du reboot, quoi. Tiens, t'as été rebooté, quoi, en quelque sorte.
Ouais, c'est un peu, ouais.
Il y a l'introduction d'un autre personnage avec Black Canary, un nouveau personnage que je connaissais pas. Non, j'ai déjà oublié le nom.
Non, mais elle s'appelle Eve, mais il n'y a pas son nom de scène. Enfin, je l'ai vu nulle part.
Mais c'est peut-être Eve son nom.
Non, mais Eve, c'est EV, en fait. Il n'y a pas, même pas de E. Elle est russe ou un truc comme ça. Et alors, je crois pas qu'il y ait son nom de personnage qui soit marqué quelque part. Hein.
Est-ce qu'elle se lève pour danser avec la nuit?
C'est podcast souvenir, quoi, c'est ça?
Tu es nous maintenant.
Oui, surtout que la musique est horrible. C'est le genre de truc qu'on garde en tête.
Voilà, nouveau personnage.
Bah, c'est ce qu'il fallait dire à Oracle, justement. Lève-toi.
Tout à fait.
Il marche. Ok, donc pour vous, un bail?
Oui, un bail, c'est un bon point d'introduction.
Ouais.
Donc il faudra clarifier le passé quand même de l'équipe avant.
Ouais, et puis mettre, pour le coup, peut-être qu'au numéro 2, ce serait peut-être pas mal de nous mettre genre quels sont les noms des personnages qui forment l'équipe en fait, parce que alors, là on a les elles sont dessinées si tu veux, mais tu ne sais pas qui elles sont.
Oui, alors ça c'est un gros problème quand même des comics DC. Chez Marvel, ils sont un peu plus dans le trip, tu sais, mettre une page pour résumer qui sont les persos et où on en est dans l'histoire. Chez DC, c'est vrai que ça fait des années que ça se fait plus. D'ailleurs, est-ce que ça s'est déjà fait?
Il n'y a jamais eu de récap.
Eh ben, il aurait été bien que pour le relaunch, ils se mettent à faire ça.
Bah, va savoir avec le numéro 2.
Peut-être que le 2, ils le feront, hein, genre dans l'épisode précédent.
Parce que, techniquement, vu que c'est un numéro 1, tu dois pas avoir de page de récap, normalement.
Juste pour présenter les persos, à la rigueur, comme dirait Claire.
Quand tu regardes un numéro 1 de Marvel, tu n'as pas de page de récap.
C'est vrai. Mais là,
ce qui est dommage, c'est que on a l'introduction de nouveaux personnages, mais si tu veux, ils sont dans le feu de l'action, mais... Tu juste pour en parler, t'aimerais bien pouvoir donner un nom à la personne, quoi. Plutôt que dire, bah, tu sais, c'est la nana, là, avec les tatouages. J'ai fait, ah oui, ok.
Parce qu'à la rigueur, en plus, comme ils minimisent leur comics à 20 pages, ce serait pas mal d'avoir une page récap, quoi.
Ouais. Ah, ça ferait une page de pub en moins. Hein. Ouais. Et la pub, c'est ce qui paye les comics.
Ouais, bah, écoute, voilà.
Demi-page, c'est bon. Oui, ils font un sponsor, c'est... Cette page de récap vous est présentée par...
N'importe quoi.
Ce que de tu
récap,
c'est ça.
Alors, allez, on va passer quand même à la suite. On va rester dans le thème du Batman avec Red Hood and the Outlaws par Scott Lobdell et Kenneth Rocafort.
Qui va faire parler?
Qui a envie d'en parler?
Ah bah moi. Bah écoute, enfin c'est difficile quand même d'en parler. Disons que bon.
C'est parfait, merci beaucoup.
Voilà, c'est très très difficile de résumer ça parce que le personnage de Red Hood, aussi bien que le personnage d'Arsenal et le personnage de comment s'appelle-t-elle déjà?
Roy Harper.
Starfire.
Voilà.
Et Sam a raison, c'est Roy Harper parce qu'on ne sait pas s'il s'appelle encore Arsenal dans ce moment.
Ouais. C'est vrai,
cette nouvelle version.
Non, bon, alors Roy Harper, le sidekick normalement de Green Arrow.
L'ancien sidekick.
L'ancien sidekick. Bon, enfin, ils forment une espèce d'équipe à trois, hein, du coup.
Oui, dans tous les sens du terme.
Oui, voilà. une espèce de trio, hein, pour pas dire triolisme. Voilà.
Je sens venir la scène, moi, de ce triolisme dans ce comic book, mais à 10 milliards d'années. On n'y échappe pas.
Oui, il y a une espèce de tension sexuelle entre.
Oui, il n'y a pas de tension sexuelle, il y a acte sexuel directement.
Oui, on peut le dire, il y a pénétration.
Ouais, on va parler d'un autre comics comme ça.
Ah, ça va me donner envie de le lire en fait. J'avais pas envie, mais du coup là, c'est passionnant.
En fait, au début du comic book, Red Hood va sauver la peau de Roy Harper. Ensuite, il l'emmène sur sa petite île paradisiaque avec Starfire. Mm. Et alors que Starfire et Roy se connaissent depuis à peu près 4 secondes,
ouais.
Elle lui propose déjà de s'envoyer en l'air.
Ah bah c'est une fille.
C'est-à-dire que
très amical.
Oui, voilà.
Mais non, en fait,
tu veux t'envoyer en l'air?
Mais non, elle lui propose de boire un Schweppes, vous avez pas compris.
Oui,
oui, voilà, c'est ça.
Et moi, ce qui m'a un peu, je dirais, assis sur ma chaise, c'est que elle propose de s'envoyer en l'air comme si, voilà, elle dit, tu vas aller faire les courses, tu veux prendre un verre. Enfin, c'est l'acte en lui-même est pour elle quasiment sur le même plan. Ouais, c'est une action banale et ça, sans.
Justement, de dire aux gens, tiens, salut, ça va, tu veux t'envoyer en l'air avec moi, tu vois, c'est facile, quoi, c'est. Ça ferait plaisir, je pense.
Ouais, mais sauf qu'en fait, elle dit dans quelques pages précédentes, c'est que grosso modo, les humains n'arrivent pas à les distinguer entre eux.
Oui. Bah, on a une explication de pourquoi Starfire travaille avec Red Hood. Quoi.
Ah, ça, en fait, j'ai dû le rater. Ce qu'il faut dire, c'est que.
Bah, oui, parce...
Alors, l'explication doit être dans la page où on l'envoie à moitié à poil. Parce
oui,
que,
non, mais en fait.
J'ai du mal avec le texte.
Non, mais enfin, elle est expliquée, bah, on en a parlé juste avant le podcast, en fait. C'est simplement qu'elle n'a plus de mémoire. Et comme elle ne se rappelle même pas, elle connaît même pas les Teen Titans, puisque Roy
les
va lui
citer. Titans.
Oh, oui, voilà, c'est ça.
C'est Nono.
Voilà. Teen Titans.
Nono.
Roy va lui citer les membres un par un, et elle ne se rappelle d'aucun.
C'est super.
Donc, de toute façon, elle n'a aucun problème à travailler avec Red Hood, puisqu'elle ne sait pas.
Non, mais...
Voilà.
Dans tous les cas, au fait, les trois personnages n'ont plus quasiment rien à voir avec ce qu'on a connu d'eux avant.
Oui. Mais quoique.
À part Red Hood. Red Hood, lui, je oui. trouve, est quasiment.
Oui, mais enfin, là, visiblement, il connaît de nouveaux personnages, parce que cette meuf-là, on l'a jamais vue.
Oui, la meuf qui est introduite. C'est-à-dire, alors, il y a un personnage féminin qui est introduit dans le.
Essence.
Introduit. Voilà, ça, je sais pas si c'est le mot à choisir.
Une organisation qui s'appelle Oldcastle.
Ouh, et si cette meuf, c'était.
Non, Oldcast, en fait. C'est pas Oldcastle, c'est Oldcast.
Ah, moi,
j'ai vu le château.
Oui, je sais, mais moi aussi je me suis fait avoir deux fois, mais je l'ai relu, et non, c'est Oldcast.
Mais par contre, est-ce que cette nana serait au fait la mystérieuse capuchée?
Non.
Mais il se passe quoi, en fait, dans ce comics-là?
Bien, c'est très confus, c'est très dense, mais le truc, c'est que c'est tellement bien écrit que t'as envie d'aller lire la suite pour savoir ce qui se passe.
Ouais. Non, mais en fait, franchement, pour donner mon avis général, j'ai trouvé ça très fun, quand même.
D'accord. Ah oui, c'est fun à lire. Moi,
ah, oui.
C'est juste la caractérisation de Starfire qui me dérange.
Est-ce que c'est un truc, parce que je vois que vous parlez des Teen Titans et tout, est-ce que c'est quelque chose qui est pour des lectures de teenagers plutôt ou...
Non.
Non. C'était vraiment, en fait, Teen Titans, c'est un truc qui a été repris au début des années 80 par Marv Wolfman et Georges Pérez, et qui a vraiment redynamisé l'ensemble de l'univers DC. C'est vraiment ça. Ça a fait passer un cap à toute la seconde génération des héros DC. Donc Nightwing, qui sait ce qu'il y avait d'autre déjà.
Bah, il y avait Cyborg, il y avait Raven,
il y avait Donna Troy,
Kid Flash, Donna Troy, ouais.
Voilà, donc c'était vraiment un truc, mais et c'était vraiment une lecture moderne, voilà, des super-héros dans un univers DC qui s'encroûtait pas mal à ce moment-là.
D'accord.
Et... C'est simple, à l'époque, tu avais deux franchises majeures, tu avais la franchise X-Men chez,
voilà.
chez Marvel, les... et tu avais les Teen Titans chez DC. C'était ce qui vendait.
T'avais la version tibétaine et t'avais la version.
Voilà. Et moi, ça confirme un peu mon idée que dans ce relaunch, la génération intermédiaire entre les premiers héros et la génération des Teen Titans actuels, c'est-à-dire Superboy et les autres, est quasiment sacrifiée, quoi.
D'accord.
Un peu, étant donné que la continuité est réduite à 5 ans, Du coup, c'est vrai que c'est difficile d'introduire beaucoup de personnages entre les deux.
Ouais.
En tout cas, pour quelqu'un qui n'aurait jamais lu ces personnages-là avant, on peut tout de suite rentrer dedans quand même.
Ouais, il n'y a pas besoin de les connaître.
Voilà, voilà. Pas du tout, puisque même en les connaissant, on ne comprend rien à ce qui se passe. Et d'ailleurs, ce qui est très bien fait quand même, c'est que déjà d'une part, c'est fun à lire, et d'autre part, à la fin, c'est pas marqué « to be continued », c'est marqué « to be explained ».
Oui, exactement. Et ça, c'est très marrant.
Ah ouais,
c'est quand même extraordinaire. Ouais. C'est-à-dire que effectivement, on ne comprend pas, mais...
Mais c'est assumé.
Oui, voilà. On nous dit qu'on va nous expliquer. Donc, moi, j'achète, quoi. Enfin, c'est un bail pour moi.
À l'inverse d'un Legion Lost la semaine dernière, où on ne comprend rien et on n'a absolument pas envie de connaître la suite, parce que de toute façon, c'est vraiment mauvais, là, tu comprends rien, mais t'es intrigué.
Oui, je dirais que la principale différence, c'est que dans Legion Lost, on a 150 personnages qui font des actions auxquelles on ne comprend rien, alors que là, on a 3 personnages, donc ça va, on a pas trop de mal à suivre. Ils sont bien dessinés, donc on arrive bien à les distinguer.
Ah oui, moi j'ai bien aimé aussi
le
graphique.
Oui, le dessin. Et grosso modo, tout ce qui fait l'Obdel, c'est poser un mystère en fin d'épisode pour nous donner envie de suivre.
Bon, pas voilà. Qu'en fin d'épisode, hein. Il pose quand même 2-3 subplots, enfin c'est du l'Obdel quoi.
Voilà, pour nous dire, voilà, j'ai de la substance pour nourrir le bouquin.
Ouais. Bah, en tout cas, moi, vous m'avez donné envie de le lire, alors qu'à la base, c'est pas du tout un truc qui m'intéresserait.
Voilà, disons que quand on commence le bouquin, on se dit d'accord, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Et c'est ce que pose l'Obdel en fin d'épisode. Voilà.
Oui, qu'est-ce que foutent ces trois personnages-là qui, à la base, n'ont rien à voir les uns avec les autres, ensemble?
D'accord.
En fait, ça peut se résumer à ça.
Vivre sans voir l'air dans un mangalo ou... Action, mais...
Ouais, bah, la réponse dans les prochains épisodes, hein, j'ai envie de dire.
Bon, sinon, le dessin, effectivement, je le disais, Benny a confirmé, Kenneth Okafor, là, il a passé un cap. Hein, je trouve, en tant que dessinateur. C'est bien meilleur que ce que j'ai vu auparavant sur ce qu'il a fait sur, par exemple, Hunter Killer chez Topco. C'est beaucoup moins brouillon, beaucoup plus appliqué, donc...
À savoir qu'il s'ancre lui-même, en plus.
Non, mais ce qu'il a fait récemment sur Action Comics. Ouais.
C'est peut-être pour ça. Hein.
En tout cas, bah, pour moi, ce sera un check-it. Un bon check-it, disons. Ouais, voilà. Pour toi aussi, Benny, peut-être
Bye, pour moi, là.
Ah, bye, carrément.
Oui, bah, très bonne surprise de la semaine, ouais.
Oui, donc, à part par Starfire. Voilà, moi, je dis, c'est vraiment la grosse connerie du comic. Hein, là.
Oh, non, mais dessiné comme ça, moi, j'accepte, allez, hop.
Oui, ça, aussi mon cerveau s'est débranché quand je l'ai vu dessiner comme ça, mais quand j'ai refermé le comic book, j'avais plus l'image, là j'ai pu rebrancher mon cerveau et avoir plus de recul.
Allez, on va passer à la suite avec le Catwoman.
Je l'ai lu, j'ai pas aimé.
Très bonne transition d'ailleurs.
Oui,
je viens de le feuilleter puisque je l'ai pas encore lu, mais alors par contre on m'avait pas dit que c'était un comics adulte.
Ah oui, hein, n'est-ce pas?
Je sais pas, moi je suis pas d'accord. Je dirais les trois quarts du comic book sont pas mal.
Banal.
Mais là ça termine
sur lutte. La fin, là, disons que ce qui m'a plus, c'est pas que le fait que le comic soit pour adultes, ça franchement, ça me choque pas et ça me gêne pas. Ce qui me dérange plus, c'est la continuité là qui est un peu massacrée puisque Catwoman ne sait plus qui est Batman.
Mais y a pas que la continuité qui est massacrée. T'as vu les dessins?
Non, ça va. Guillaume Marche, moi j'aime bien.
Ah, j'aime pas du tout, hein, franchement.
Je lui dis au scénario et qu'il marche au dessin.
Franchement, les dessins, non, c'est pas possible. Enfin, elle est pas belle, elle est pas attirante, Catwoman. Oh non.
Je suis pas d'accord. Non. Non, non.
Bah, disons que j'étais plus réservé sur le boulot de Guillaume Marche sur son précédent bouquin. Je crois que c'était Gotham Sirène. Et là, personnellement, j'aime bien.
Moi, j'ai toujours bien aimé Guillaume Marche. J'ai pas encore eu le temps de jeter un coup d'œil à Catwoman, donc je sais pas trop ce que ça vaut, mais je pars plutôt confiant, quoi.
Oui. Non, mais alors attends, t'as pas vu donc ces deux dernières pages, Steve?
Ah non, j'ai pas du tout ouvert le bordel, quoi.
D'accord, mais alors, exactement, voilà.
C'est ça.
Voilà, très bien, très bonne image. Non, mais c'est exactement ça, quoi, c'est hallucinant. Moi, je trouve je suis quand même halluciné par la fin de ce comic, pas classé d'ailleurs différemment des autres.
Bah, c'est marqué sur la cover, hein, si c'est un T ou pas.
Alors, bah, attends, mais y a rien, quoi, honnêtement.
Oui, c'est un T, ouais.
Teen, ouais. Bah écoute, faut bien les éduquer, ces jeunes un peu.
Bon, ouais, mais attends, mais y a rien.
Franchement, y a rien.
C'est quoi, t'as un poil sur le torse, quoi, c'est bon.
Ah, 12 ans, une scène comme ça, ça fait des petits guillis quand même. Hein.
Franchement, je sais pas si un gamin de 12 ans ira acheter Catwoman, quoi.
Oui. Non, mais maintenant, les gamins de 12 ans aujourd'hui ils ont internet, hein, donc ça,
oui. Ça c'est rien du tout. Hein.
Ils vont sur YouPorn, les petits cochons.
Voilà. Bon, bah, ouais. Donne des adresses en plus.
On vous mettra des adresses à la fin du podcast.
Ça nous coûtait cher, ça, à mon avis.
Ah là là.
Non, mais franchement, ça m'a pas choqué plus que ça. En plus, c'est... Bon, on ne va pas le dire.
Voilà. Non, mais moi même l'histoire. Enfin, je trouve que la caractérisation du personnage de Catwoman, tel que c'est fait là par Jude Winnick, j'adhère pas. Et vu que les dessins, j'aime pas, ça aide vraiment pas pour.
Non, moi, la version m'a pas gêné non plus. Bah, disons, dans le dessin, personnellement, je préfère plus la version Tim Sale. Parce que là, Selina Kyle, on va dire, parce que c'est vraiment là qu'elle apparaît, il la dessine un peu comme une star de cinéma des années 50.
C'est vraiment ça. Elle a un côté glamour et tout.
C'est ça, oui.
Là, elle est froide, elle est.
Elle est 21e siècle.
Ouais, bah, de toute façon, comme avec ses lunettes, là, enfin, ce costume est tellement moche.
Ah oui. C'est, vraiment. Non, le costume est à chier, tout le monde le dit, mais.
Ouais.
Mais c'est côté, hein. Moi, je déteste pas ce costume. Franchement. Mais par contre, je conclurai en disant que tout était dans le nom de l'auteur.
Eh bien, moi, je dirais. Moi, je dirais que bah, c'est bien connu. Hein. Au début, elle est froide. Et après, voilà.
Chien échaudé, craint l'eau froide.
Comprenne qui pourra.
Bon, on peut en faire beaucoup comme ça aussi. Mais rien que le titre de cet épisode. Alors, je me rappelle plus ce que c'est, mais c'est un truc du style... je sais plus, un truc par rapport aux vêtements qu'on est habillé qu'à moitié ou quelque chose comme ça.
Merci.
Donc,
ah oui, c'est And Most of the Costume Stay On.
C'est ça, voilà. La plupart du costume...
On garde le gros de vêtements.
Ouais, voilà ça.
Ok.
Ce qui est une référence passer... à la dernière phrase du comic.
Voilà, tout à fait.
On va passer à un mec qui est, lui, totalement à poil avec le Captain Atom.
J'ai dû lire 14 pages.
J'ai pas lu.
C'était sympa.
J.T. Krull au scénar, Freddy Williams 2 au dessin, et pour moi, c'est un gros pass.
Alors, par contre, c'est Freddy Williams qui dessine.
Ouais, c'est Freddy Williams 2, ouais. Et c'est très moche. C'est très très moche.
Ah, mais moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il prend une direction très Francis Manipul hein, dans son trait.
Ah, moi, je trouve qu'il prend une direction directement aux toilettes. Je sais pas, c'est franchement pas beau, quoi.
Et c'est marrant parce que, sans surprise, les séries dont on pouvait dire, ouais, à mon avis, elles vont pas faire long feu, bah, ça se concrétise, ouais. Ça se confirme.
Ah, bah, disons que là, honnêtement, je ne reconnais pas Captain Atom, du tout. Le personnage est inexistant, il n'y a aucune caractérisation, le mec est plat, c'est un gros loser, il comprend rien, il sait même pas ce qu'il fait. Et en plus, on est en train de nous le fusionner avec Firestorm.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il a exactement les mêmes pouvoirs que Firestorm maintenant, ce qui est ridicule. Pourquoi lancer un comic Firestorm et un comic Captain Atom si c'est pour faire deux personnages qui vont faire la même chose?
Et deux séries qui vont être annulées.
Deux séries qui seront annulées, effectivement.
Bah on n'a pas encore eu... On l'a eu, Firestorm? Non, on l'a pas encore.
Non, il sort la semaine prochaine. Mais ça sera de la merde, hein, je vous le dis tout de suite.
Oh, bah, on sait rien, Gail Simon, elle peut faire quelque chose de bien.
Oui, ouais. Sauf...
Ouais, ça peut être une bonne surprise. Moi,
c'est vrai que le tandem de Firestorm depuis Blackest Night est assez sympathique avec les deux personnages qui s'entendent pas forcément très bien. Mais bon.
Porter voilà, une série sur un seul.
Voilà, je suis pas certain, ouais. Je pense que dans une équipe Firestorm, je le verrais bien intégrer un truc comme Teen Titans, quoi.
Ou là, c'est un mec Firestorm.
Oui.
C'est deux mecs.
Ah, okay. Oui, mais faut non, pas confondre que... Firestorm avec la nana dans Red Wing.
Starfire, ouais, c'est mal.
Ah oui,
Starfire,
c'est ça, ouais.
Firestorm. Il y en a une qui a les feux aux fesses et l'autre qui a les feux sur la tête.
D'accord, oui, c'est pas pareil.
Voilà, ça c'est fait.
Merci, Benny.
Donc pour toi, Sam,
check it,
ouais, pour moi.
Parce que j'ai vu un check it.
Un pass. Legion of Super Heroes.
Non, zappé.
Non, pas lu.
Ouais, ok, il y a que moi. Donc Paul Levitz au scénario, Francis Portela au dessin. Alors, tout de suite, je vous le dis, c'est quand même nettement plus intéressant que Legion Lost. En même temps, c'était pas difficile. Sauf que, bah, encore une fois, j'ai l'impression que c'est la directe suite de ce qui s'était fait avant le relaunch. Donc, bon, en même temps, j'ai décroché hein, de Legion depuis un petit moment, parce que ça m'intéressait pas du tout.
Comme là, c'était trop.
L'écriture de Paul Levitz m'emmerdait profondément. Bon, bah là, franchement, j'ai pas été beaucoup plus captivé. On fait une référence à Superboy et on fait une référence au Flashpoint Effect dont on avait fait référence dans Legion Lost.
Le fameux, ça fait beaucoup
de références, tout ça. Tu m'as perdu. En même temps, t'es dans le sujet.
C'est-à-dire qu'il y a, il y a une référence à un truc qui s'appelle le Flashpoint Effect, qui est apparemment quelque chose qui empêche le voyage temporel.
D'accord.
Oui, c'est vrai. Je crois que c'était Sam qui nous avait dit qu'il
y aurait... C'est comme le Kids School Effect, non? Je sais pas.
Mais en fait, voilà, ce Flashpoint Effect empêche tout le monde de voyager dans le temps, donc on comprend très bien comment les gens de Legion Lost ont fait pour traverser, mais c'est pas grave, ils ont réussi quand même, ils sont super malaises. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on n'a rien compris. Hein.
Oui, ça aide.
Et donc, il y a quand même une référence à Superman, c'est-à-dire que maintenant, vu qu'ils ne peuvent plus voyager dans le temps, ils ne pourront plus appeler Superman à l'aide. Donc, ça veut dire que Superman a quand même fondé la Légion. Apparemment. Bah, en tout cas, ils y font une référence. Donc, je comprends rien. Mais en même temps, ça n'a pas super accroché. Je pense que Jean-Lô, lui, va aimer beaucoup. Non, mais de toute façon, Il est, non, il est, déjà, il est très bon public, et puis il aime beaucoup la Légion, donc voilà, j'espère que ça lui aura plu.
Ça fait un... En plus, il est très simplé, hein, Jean-Loup. Hein, il aime
bien. Non, mais bien, attends, c'est la déf... hey, franchement, c'est un peu le défenseur de la veuve et l'orphelin du comics, hein, Jean-Loup, hein, faut le dire quand même. Hein.
C'est le Jurassic Park.
Voilà.
Ça, il a pas pu. Non, mais bon, voilà, j'espère que ça lui fera plaisir. En tout cas, moi, ça m'a profondément saoulé. Donc, pour moi, ce sera bah, comme le reste de la Légion actuellement, un pass, quoi. On va finir... Ah non, il nous en reste deux, pardon. Il nous reste Blue Beetle. Tony Bédard au scénario, Igara au dessin, Rui Rosé à l'ancrage. De nouveau, les origines du Blue Beetle. Et bah, je suis carrément pas rentré dedans. Il y a un tiers du comic qui est en espagnol.
Est-ce que c'est... Ah oui, c'est toujours lui, donc c'est toujours le
même. Oui, c'est toujours Jamie Reyes, ouais. Mmh. Mais alors, bon, voilà, parce que le mec est hispanique, ça parle espagnol tout le temps dans le comic. Moi, ça me saoule. Voilà, je parle pas espagnol. J'arrive à vaguement décoder parce qu'il y a des mots qui ressemblent avec le français, vu la langue latine.
Attends, mais c'est pas traduit?
Ah non, ça parle en espagnol. Et puis c'est pas juste Dios mio, attention. Hein. Non, c'est c'est vraiment, t'as des putains de phrases en entier en espagnol et tu bites que dalle, quoi.
Attends, c'est extraordinaire, d'habitude ils traduisent quand même.
Ah non, mais là, c'est franchement, c'est insupportable. Moi, j'ai complètement décroché parce que comme je comprends rien, bah ça m'intéresse pas, quoi.
C'est bizarre.
Du coup...
Y a aucune traduction, c'est ça qui est extraordinaire.
Ah non, y a rien. C'est comme ça. Donc, moi, ça m'a saoulé parce que j'ai pas envie d'aller chercher un dico pour devoir lire un comic. Ça me saoule, je n'ai pas à le faire. C'est inadmissible de devoir réagir comme ça. Donc, pour moi, ce sera un gros pass. Même si c'est hyper intéressant. Si c'est un comic en espagnol, on le sort complètement en espagnol et on prévient, quoi. C'est tout.
Là, vous avez eu le droit à un Steve qui s'énerve. Hein. Vous voilà, sentez au niveau du ton.
Attention. On n'a pas à apprendre une autre langue pour pouvoir lire un comic. Je pense qu'aux États-Unis, même s'il y a beaucoup d'hispaniques, la majorité de la population ne parle pas forcément espagnol.
Donc, bah, alors là, franchement, c'était un gros le pass. Coup de gueule. Je
c'est
pense
ça.
Que...
Non, mais je pense. Ouais, ouais.
Franchement, bah, faut être clair, quoi. Soit on prévient les gens. Enfin, je sais pas. Imagine, tu, voilà, t'as pas beaucoup de fric. Tu es bien le personnage de Blue Beetle. Tu vas acheter ton comic et tu comprends rien. Ça te fait chier.
C'est un bon point d'entrée, quoi.
Ah ouais, c'est un bon point d'entrée, ouais. Bon point d'entrée dans la
poubelle. Et de sortie.
Ouais, direct. Voilà. Donc, Sunny Broyer SFA pour Blue Beetle.
Et on termine avec.
Le Nightwing.
Nightwing. Ouais. Moi, je l'ai lu.
On a gardé un bon pour la fin, quand même. Ouais. Kevin Higgins au scénario, Eddie Barrows au dessin, JP Mayer à l'ancrage.
Moi, j'ai bien aimé, franchement.
Moi aussi.
Excellent épisode.
C'était un bon début, ça présente bien le personnage, et il y a une bonne petite fin. Donc, non, franchement, c'est sympa.
J'ai quelques réserves.
On a une info super importante.
Laquelle ?
Return of Bruce Wayne, et donc le passage de Batman Reeves, ouais. a bien eu lieu.
Ça a duré un an.
Ça a duré un an et ça a clairement dit que Dick Grayson a remplacé Batman pendant un an.
Par contre, l'explication, oui, maintenant je redeviens moi, ça j'ai pas apprécié.
Ouais,
oh, oui. Parce que pour alors, moi, donc, l'explication naturelle de Nightwing, c'était voilà, de devenir Batman.
Ça veut dire que quand même, les événements de ces dernières années ont l'air d'être conservés, mais par contre, ce qu'il y a eu avant, c'est pas possible. Quoi.
Au moins sur Batman, en tout cas.
Mm. Ouais, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que ce qui lui est arrivé avant Batman Rip, il y a peu de choses qui ont dû être conservées puisque voilà quoi, Batman Rip, si ça fait déjà un an que ça s'est produit, il y a plus de place pour mettre grand chose.
Ouais, enfin non, on dit pas que c'est,
non, on dit qu'il est resté Batman pendant un an.
Si Batman Rip est arrivé il y a un an, quoi, disons, mais
oui, du coup, oui.
Non, mais la continuité de Batman, là, ça va être disons que DC se défend en disant il est Batman en public depuis 5 ans, mais il
est Batman en privé, au fait, dans sa Batcave, au fait. Oui,
non, mais il opère dans Gotham depuis plus longtemps que ça. Ouais. C'est leur explication.
Ouais, d'accord. C'est un peu pourri.
Oui.
je pense à totalement autre chose. Je suis désolé, je reviens un tout petit peu sur Legion pendant l'espace de 2 secondes. Il y a un personnage dans Legion qui ressemble étrangement à la fille encapuchonnée.
Ben non, elle doit pas.
Mais je pense qu'elle existait déjà. Au fait, j'ai vu ça sur internet, dans Superman for Tomorrow, là, le truc de Jim Lee et de Brian Azzarello, justement, il y avait un personnage de la Légion qui ressemblait, à s'y méprendre, à cette bonne femme encapuchée.
En plus, elle parle de vouloir changer des événements du passé, etc. J'ai pas retenu son nom. Alors, je sais pas si c'est vraiment elle ou pas. En tout cas, bon, voilà. C'est peut-être la chose la plus intéressante du comic. J'allais l'oublier. C'est marrant.
c'est très drôle, en effet. Mais alors,
la chose intéressante, en fait...
On est plié en 4, là.
J'y pensais plus. Oui, bon, pour revenir sur Nightwing, j'ai bien aimé l'histoire. Il y a la présentation du Nightwing, bah comme ça, les gens qui connaissent pas peuvent le voir, pour ceux qui, enfin, peuvent le découvrir, disons, et pour ceux qui connaissent le personnage, on voit qu'il y a un retour à ce qu'il était avant, et un espèce, comme on dit, un back to the basics, quoi.
Oui, c'est pour ça que moi j'ai des réserves sur le truc. J'aime pas trop ce retour, alors que voilà, le personnage avait bien évolué, ça avait bien pris, moi je trouvais, la greffe, donc pourquoi revenir en arrière sur un truc qui marchait.
Bah, moi je connaissais pas le, enfin je connaissais pas le perso, j'ai jamais lu de Nightwing, mais je connaissais enfin le perso comme ça, tu vois, vite fait. Mmh. Et là de lire ce premier numéro où ça revient un peu sur bah voilà, la façon dont il est devenu Robin, comme enfin tout ça, enfin moi j'ai trouvé ça assez intéressant, que c'était bien ficelé, et du coup ça m'a donné envie d'aller voir la suite.
Est-ce qu'on dit depuis quand il est Nightwing?
Ah non.
Non. Oh. Mais en fait, on dit pas vraiment comment il est devenu Nightwing.
Bah, bon, de toute façon, c'est simple. Hein.
Bah, tu te doutes, hein. C'est quand il est devenu trop vieux pour Batman, il est devenu Nightwing. C'est
ça. Dis comme ça, c'est très limite.
Je sais. C'était fait exprès.
Ah, il aime bien la chair fraîche, hein. Damian, c'est bien. Sans...
C'est ça, voilà.
Oh, mais c'est bien parce qu'il n'y a pas d'inceste, en plus.
Oui, voilà, c'est ça. Enfin, soi-disant, en fait, on n'est pas sûr. Donc, lui non plus. Donc, bon, il dit dans le doute, allez, hop, hop, hop.
Reste quand même une interrogation, vu que c'est Kyle Higgins qui a écrit, qui était en co-scénariste avec Snyder sur Gates of Gotham. Mm-hmm. Je pense que les mecs ont dû échanger pas mal d'idées. Est-ce que Nightwing ne serait pas connecté d'une certaine façon à Batman?
Ça veut dire qu'il serait connecté.
Je comprends pas.
Mais pour ceux qui ont lu Batman, rappelez-vous du cliffhanger dans Batman.
Oui, oui, justement, j'allais te demander, est-ce que...
Oui,
est-ce
moi aussi, ça, j'ai pensé à ça.
Et on a ce fameux nouveau mercenaire qui est venu, qui veut tuer Dick Grayson. Mm-hmm. Est-ce que ces deux choses ne seraient pas liées?
Oui, parce que ça, c'est un peu dans la même thématique, en fait.
Ce qui... Ben voilà, c'est ça. Ouais. Moi, je me pose la question, quoi. Sachant qu'en plus, ce sont les deux potes qui ont bossé ensemble il y a pas longtemps.
Mm-hmm. Et un fameux mercenaire qui a pris des cours avec Wolverine. Hein.
Un peu, ouais. Un petit peu.
Bon, je crois qu'on a fait le tour de cette semaine.
Eh ben, on a fait le tour.
Pour
si, on va peut-être dire quand même ce qu'on a de Nightwing. Bye. Enfin, pour moi, bye.
Ah, pour moi,
oui,
c'est un
bye aussi.
Ah oui.
Eh ben, parfait. Avant de nous passer au maintenant récurrent top 3, on va vite fait parler de ce qui s'est fait chez Marvel cette semaine. Ultimate X-Men.
Bah, j'ai fait un autre token, j'ai bien aimé.
D'accord. Là, c'est vraiment express.
Non, mais j'ai exposé pourquoi j'aimais bien dans le...
Ouais, bah, il y a
le
unspoken à lire, quoi.
Voilà. Il est sorti aujourd'hui sur le site, donc. Enfin, il est sorti jeudi sur le site.
Oui, on enregistre jeudi, mais c'est vrai que pour les gens, ça sera plus tard.
Donc, il est déjà sur le site, vous l'avez déjà lu, et vous savez qu'il a aimé, et vous savez pourquoi.
Voilà.
Et, ben, moi, j'ai juste feuilleté, au fait, le début. J'ai pas eu le temps de le lire encore. Donc, au vu des premières pages, j'ai l'impression que c'est quand même assez intéressant.
Bah, c'est un peu dommage que t'as raté le meilleur passage qui est à la fin.
D'accord, mais bah, tant mieux. Enfin, je veux dire.
Alors, donc, je te dis, le meilleur est à la fin.
Oui, bah, alors, déjà, ça démarre fort, donc, tant mieux. J'ai l'impression que c'est le redémarrage, d'une série Ultimate la plus intéressante. Oui. Oula, je vais refaire la phrase, ça veut rien dire. Enfin, c'est pas grave, enfin voilà, le redémarrage le plus intéressant.
C'est quoi comme série déjà?
Ultimate X-Men.
Ultimate X-Men, d'accord.
On l'a dit il y a 30 secondes.
Ouais, je sais, mais entre Ultimate X-Men, Ultimate Avengers et Ultimate machin truc, j'avais juste Ultimate au début, en fait.
Puis j'ai l'impression qu'on peut commencer ça sans avoir lu du Ultimate X-Men avant et comprendre.
C'est bien dans la continuité, mais comme c'est bien introduit, on n'a pas besoin de lire les 150 épisodes qu'il y avait avant.
Peux-tu nous rappeler qui est au scénario?
Nick Spencer.
Voilà.
Et pas quoi de au dessin.
Ah oui.
Ça veut tout dire.
Effectivement.
Vite fait, je sais que tu as lu Schism aussi, Sam.
Oui, donc là aussi, le Unspoken devrait être sorti quand le podcast sortira. C'est moi du gland.
Mais pourquoi tu fais à chaque fois des unspoken sur schisme alors que enfin voilà,
comme la mort, oui, effectivement.
Oui, moi j'ai lu les trois premiers, à chaque fois ils affrontent les Razmoket, je pense que ça n'évolue pas.
Ben là on a enfin la confrontation Cyclope Wolverine.
Ah d'accord, ça pète enfin. Et voilà, est-ce que la justification vaut le coup, parce que
oui,
moi je trouve ça forcé,
non.
Quoi.
Oui, non.
D'accord. Moi je prouve que ça aurait pu péter pour mille et une raisons avant et puis là ça
voilà, oui. Pas. Disons que moi mon reproche personnel c'est que grosso modo il n'y avait pas besoin de 3 épisodes pour en arriver là. On aurait pu faire ça dans un gros épisode de 50 pages, ça ne m'aurait pas chopé.
Avec une meilleure explication en plus, parce que là, je pense que c'est un petit peu forcé.
Oui. Okay. Voilà, faire 5 épisodes là-dessus... voilà. Disons que je comprends mieux pourquoi les 3 épisodes étaient chiants à mourir.
D'accord.
Bon, mais au moins, je disais, c'est au moins c'est dessiné par Alan Davis. Donc, c'est
tiens, oui, rappelons, Jason Aaron, je sais pas si on l'a dit.
Oui, Jason Aaron au scénario.
Au scénario, alors
donc,
que...
On se mal pour la série Wolverine and the X-Men. Hein, parce que...
Ouais, mais Jason Aaron, je le trouve carrément meilleur sur des choses hors super-héros. Et d'ailleurs, le dernier volume de Sculpt, rien à voir, mais c'est très bon.
Puis Punisher Max aussi.
Oui, aussi.
Par exemple.
Ouais.
Vite fait, Daredevil, je suis le seul à l'avoir lu
ou... Oui.
Ok, le Daredevil donc, qui est sorti cette semaine, après un épisode précédent sorti la semaine dernière. pourquoi deux rapprochés, simplement parce qu'on a changé d'équipe créative. Là, c'est Marcos Martin qui débute un nouvel arc. C'est très beau. C'est du Marcos Martin. C'est excellent, comme d'habitude, avec ce relaunch. Enfin, en tout cas, moi, ça me séduit entièrement. J'adore cette nouvelle direction. Bon, là, on a le côté un peu facile avec Matt Murdock qui va essayer d'aller défendre, enfin défendre si on veut, aider en tout cas à se défendre lui-même un aveugle, un petit aveugle qui s'est fait virer. Et je vous laisse découvrir ça, c'est très très bon.
Qui s'est fait virer de
méga bail. Qui se fait virer de son taf.
D'accord, mais il était dans quoi en fait ?
Il était dans une boîte de comment expliquer ça, c'est une boîte qui gère des contrats, qui vend, qui achète, etc. Le petit gamin était un surdoué, hein. Il est aveugle, il parlait 14 langues, enfin voilà.
Oui.
14 langues couramment, une dizaine de langues en plus qu'il était capable de reconnaître.
Donc le logique effectivement de le virer.
Dont l'espagnol, donc il aurait pu suivre Blue Beetle.
Exactement.
C'est vraiment un génie, autant le dire.
Ouais voilà, donc je vous laisse découvrir ce comic qui est pour moi juste une tuerie.
Oui, puis c'est d'ailleurs, rappelons que c'est le début d'un nouvel arc finalement, puisque... Mmh. Oui.
Exactement, ouais, nouvel arc. Et donc dessiné par Marcos Martin, comme je disais, donc voilà. De toute façon, on a une super team d'artistes. D'un côté Paolo Rivera, de l'autre côté Marcos Martin. Que demander de mieux. Bien. Et ben c'est. On va finir avec le top 3, quand même, de la semaine, le top 3 d'essai. Qui veut s'y coller en premier ?
Bon, peut-être. Moi, ça va être simple, hein. Vu que j'en ai vu que 3. Batman, Red Hood and the Outlaws, et puis en dernier, Wonder Woman, quand même.
D'accord. Claire ?
Donc, moi, je mettrais Supergirl en premier, Birds of Prey en second, et Batman en troisième. Et je ne fais pas apparaître Wonder Woman dedans.
Sam.
Batman, Wonder Woman, et en dernier, on va choisir.
Legion Lost.
Voilà.
C'est pas grave, c'était tellement bien qu'on va le mettre deux semaines de film.
Non, je pense que je vais prendre Birds of Prey en 3.
Ok. Et pour moi, ce sera donc le Batman, Green Lantern Corps et Nightwing. Ça conclut notre semaine de review, encore une fois spéciale DC, même si on a fait un peu de Marvel.
Ouais, un peu plus que d'habitude.
Deux minutes de plus.
Quand il y a des choses à peu près intéressantes qui sortent, c'est-à-dire pas du Fear Itself.
Et pas du schisme.
Ah bah la semaine dernière, il y avait quand même l'Ultimate Spider-Man, mais on n'a pas eu le temps d'en parler, parce qu'on a largement débordé.
Rapidement.
Ah, on en a parlé ? Ah bah oui, peut-être, c'est vrai.
On avait parlé rapidement. Le
mec était là, mais qui était pas là, je pense.
Bien, et bien comme d'habitude, on vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière salve de Relaunch.
Et ben moi, pour être original, j'ai envie de vous souhaiter une semaine bien pourrie. Voilà.
Mais juste... Non, moi, c'est bon, c'est déjà fait. Donc... je pense que Steve, ça doit être pareil. Donc.
Ouais. Là, ça devient dur. Là. Ça devient très dur.
Ouais. Moi, avec des titres que j'attends la semaine prochaine.
Et si, bien sûr, vous détestez DC, eh bien, ça fera encore une semaine à insister.
Bon, de toute façon, c'est pas avec la prochaine semaine, à mon avis. Les prochains mois vont quand même être très durs, puisque c'est vraiment là où sont braqués tous les projecteurs.
Ouais.
Reste à attendre. Je dis pas ça, la semaine prochaine, il y a aussi Rachel Rising 2 qui sort. Par Terry Moore, je le rappelle. Donc ne le ratez pas.
On attendra le mois d'octobre-novembre pour se réintéresser un peu à Marvel avec le relaunch des X-Men.
Et puis la fin de Fear Itself.
Ou pas.
Ou pas.
Oui, d'ailleurs, oui, puisque ça continue apparemment. Donc, quand on aime, on ne coupe pas.
Non mais Fear Itself continue, tout le monde s'en fout, hein, j'ai l'impression.
Ouais, c'est clair.
Parce que quelqu'un s'y est déjà intéressé un jour.
Parce que Nono, il aime bien Fear Itself.
Non, mais il y a des gens qui aiment.
Mais il est tout seul.
Sur la blogosphère comics, il y a des gens qui adorent Fear Itself. Et d'ailleurs, on respecte.
Mais on ne peut pas, on peut pas t'aimer de toute façon, c'est impossible.
Donc, enfin, on respecte en antenne. Hein. Hors antenne, on dit putain, non, c'est pas possible.
Non, mais moi je me dis tant mieux pour eux, hein, s'ils y trouvent leur bonheur. Ouais. Nous, ça ne fait pas le nôtre, donc on passe à y quoi, autre chose.
Je suis en train de me dire que c'est encore une conclusion extraordinaire qu'on fait là.
Tout à fait.
Mais oui, mais toute bonne conclusion fait 12 minutes, c'est bien connu. Ouais.
Sinon, ce n'est pas une conclusion.
Sinon, ce n'est pas Comic City ni Comic
City. Bon, concluons la conclusion.
Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, souhaitez que je guérisse.
Voilà, bonne semaine, bonne lecture, amusez-vous bien, tout ça, tout ça.
Bon dodo à tous, parce que moi je suis en Europe.
Voilà, semaine pourrie à tous, comme je disais tout à l'heure.
À la semaine prochaine.
Salut tout le monde.